Donc,
oui, bon, alors, actuellement, si je lis le programme, donc on voulait vous présenter quelques travaux. Alors on en a déjà présenté quelques-uns en TD, et là, quelques travaux des équipes Ampère. Alors Robert va vous présenter une activité d'études et recherche sur le produit scalaire en première S, et moi je vous présenterai le théorème de Thalès en quatrième. Voilà.
Oui, donc dans l'équipe Ampère à Clermont, s'est posé la question, est-ce qu'on peut enseigner de façon dynamique le produit scalaire en première S? Alors je ne sais pas pourquoi avec PowerPoint, le RE là, se remet en ligne, peu importe. Sachant que de façon dynamique, ça voulait dire pour nous avec un jeu de questions qui permettent en quelque sorte de faire apparaître le produit scalaire comme une réponse à des questions. Si vous regardez la plupart des manuels, la plupart du temps, le produit scalaire est d'abord présenté et ensuite vous en avez des usages. On voulait un petit peu inverser les choses et faire que le produit scalaire apparaisse comme réponse à des questions. Alors, je vous livre davantage peut-être l'analyse a priori qu'on a fait. Je vous dirai un peu ce qu'on en a fait dans des classes, enfin ce que certains profs en ont fait dans les classes. La première question, et je vous dirai pourquoi on est venu à la poser, c'est est-ce qu'on peut par le calcul montrer que deux directions sont orthogonales, deux directions du plan, on est dans le plan, ou encore que deux droites sont perpendiculaires. On est venu à penser à cela parce que, après tout, les élèves savent en seconde calculer le parallélisme de deux droites. Quand je dis calculer le parallélisme de deux droites, ça veut dire que si vous avez deux droites avec deux vecteurs directeurs, l'un de coordonnées xy, l'autre de coordonnées x', y', vous savez qu'une condition pour que les deux droites soient parallèles et que les vecteurs directeurs soient collinéaires, c'est-à-dire que xy' moins x'y égale 0. Question, est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'orthogonalité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut calculer l'orthogonalité? Au passage, vous voyez que on est très éloigné de l'introduction historique, puisque l'introduction historique, on la doit aux physiciens pour des questions portant sur la détermination du travail d'une force. Cette question a été soumise donc à des élèves de première S, tels quels. Ils ont travaillé en groupe et on peut dire qu'ils ont eu pas mal d'idées. Alors, par exemple, des idées qui sont apparues, c'est que certains d'entre eux connaissaient, savaient que deux droites sont perpendiculaires si seulement si le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Ok. D'autres on fait ce type de figure avec éventuellement des cas particuliers. C'est-à-dire que vous pouvez remarquer sur des feuilles quadrillées que si vous placez par exemple un segment OA qui vaut en coordonnées 1 et 2, si vous avez un point B qui est de coordonnées moins 2 et 1, ils sont orthogonaux. Après quelques manipulations, les élèves peuvent arriver à ce type de figure. Le problème du repère s'est pas encore posé. Mais les élèves assez spontanément font des repères orthonormés. Et ce que les élèves arrivent à trouver tout seuls, c'est que vous aurez OA perpendiculaire à OB, si et seulement si le triangle OAB est un triangle rectangle en haut. Avec ce qu'ils savent de géométrie analytique, ils sont capables de décrire AB carré égale OA carré plus OB carré en exprimant ceci avec des coordonnées. Si vous faites un calcul, après simplification, vous trouvez que si le point A comme coordonnée xy et le point B comme coordonnée x', y', vous trouvez comme condition que 2 fois x' plus y' égale 0, ou encore x' plus y' égale 0. On pourrait s'arrêter là. Ce serait déjà un usage en quelque sorte du produit scalaire, à savoir dès lors qu'on a un repère orthonormé, on est capable de calculer l'orthogonalité de deux droites. Ceci dit, on est loin d'avoir introduit le produit scalaire encore. Deuxième question, et là je dois dire que les professeurs qui ont expérimenté ça nous ont dit que le temps presse, ils ont quand même passé un certain temps avec la première question, où ils ont fait effectivement travailler les élèves. Et ils ne pouvaient pas se permettre, nous ont-ils dit, de passer autant de questions, autant de temps, pardon, sur toutes les questions. Ben, la deuxième question, c'est, on a vu apparaître une quantité, x' plus y', dont la vertu était de nous dire que lorsqu'elle était nulle, on avait effectivement l'orthogonalité de deux droites. Mes questions, est-ce que cette quantité a une signification géométrique ? Ben, la réponse, comment obtenir la réponse ? Ben, c'est de retourner au calcul qu'on a fait avec Pythagore, ou a carré, ou b carré, a b carré. Et si vous cherchez à obtenir x' plus y', ben, il suffit de faire au a carré plus au b carré moins ab carré, divisé par 2, et vous avez cette quantité. Laquelle prend un sens géométrique, ceci, quelle que soit la position respective de a et b par rapport à o. Alors, au passage, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre que l'expression x' plus y', comme c'est égal à o carré plus ob carré moins ab carré, ça ne dépend pas du repère. Si ça avait dépendu du repère, je pense qu'on serait arrêté là. À ce stade, nous ont dit les collègues, ils définissent, on va appeler ce machin-là le produit scalaire, et ils vont le définir comme produit scalaire de deux vecteurs, la moitié de norme de u au carré, les élèves savent ce que c'est que la norme d'un vecteur, plus la norme de v au carré, moins la norme de v moins u au carré. C'est une des façons d'introduire le produit scalaire qui est rendu possible, nous disent les programmes de première. On aurait pu ne pas introduire la définition tout de suite et poursuivre un peu plus le questionnement. Troisième étape, si ce qu'on vient de voir ne dépend pas du repère, est-ce qu'il y a des repères particuliers qui seraient intéressants d'examiner et qui pourraient nous fournir des renseignements sur ce que ça signifie ? Ben oui, c'est si vous choisissez le repère, alors il faut qu'il soit orthonormé. Ça, au passage, c'est une question qu'on a pu poser aux élèves éventuellement, d'essayer qu'ils examinent ce qui se passerait si le repère n'était pas orthonormé. Dans ce cas-là, s'il n'est pas orthonormé, ça ne fonctionne pas, bien sûr. La réponse à cette question, choix d'un repère particulier, on pourrait choisir en particulier un repère dont un des premiers vecteurs de base soit collinéaire avec OA, c'est-à-dire qu'on pose OA égale longueur OA fois I. Comment s'exprime à ce moment-là le produit scalaire dans un repère orthonormé qui a comme base I et J, un vecteur qui est perpendiculaire à I, et vous trouvez à ce moment-là l'expression OAOB égale OAOB cosinus θ. θ étant l'angle entre les vecteurs I et J. À ce point-là, on peut faire un premier bilan. En se posant par exemple la question de ce qu'on vient de voir, à quoi ça peut servir, en quoi ça peut être utile. Premièrement, ça correspondait à la première question. Le produit scalaire peut être utile pour démontrer par le calcul une orthogonalité, puisque c'était de cela qu'il s'agissait dès le départ. Mais la formule qu'on vient de voir, produit scalaire de OA par OB, vecteur OA par OB égale longueur OA, longueur OB par cosinus θ, fait que si on est capable de calculer d'une autre façon le produit scalaire de OA par OB, avec en particulier l'expression x' plus y', on est capable de calculer le cosinus d'un angle, et si on est capable de calculer le cosinus d'un angle géométrique, à ce moment-là, on peut se déterminer l'angle. Donc deuxième utilité du produit scalaire, c'est que pour déterminer un angle, on peut déterminer son cosinus via le produit scalaire, et donc ça peut servir. Alors, ce que je peux dire, qu'est-ce qui nous a guidé un peu pour avoir ce type de questionnement, c'était de nous dire, si on regarde en première S quelle est l'utilité du produit scalaire, il sert essentiellement à deux choses, ou pardon, à trois choses peut-être. C'est la détermination de l'orthogonalité de deux directions, calcul d'un angle, et Al-Kashi. Pour l'instant, dans ce bilan intermédiaire, je n'ai pas Al-Kashi. Est-ce que je peux aller vers Al-Kashi ? Alors, est-ce qu'il peut être d'une autre utilité ? Non, excusez-moi, quand j'ai fait le PowerPoint, là, comme je n'avais pas des vecteurs à disposition, j'ai écrit vecteur de OA égale vecteur OB. Le prof peut faire remarquer que si vous faites le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, vous avez la norme de ce vecteur au carré, et par conséquent, vous avez une longueur au carré. Ce qui permet de se poser la question, est-ce que par hasard, le produit scalaire pourrait servir à calculer des longueurs ? Alors là, vous me direz, c'est quand même très guidé, mais c'est quand même des questions qui montrent que par un jeu de questions, on peut arriver au produit scalaire. Donc, troisième question, est-ce que le produit scalaire pourrait nous servir pour calculer des longueurs ? En utilisant, bien sûr, la propriété qu'on vient de voir, à savoir que le produit scalaire de OA par lui-même égale le carré d'une longueur. Là, c'est les professeurs qui vont prendre en charge l'étude. Si vous avez OAB un triangle, alors cette fois-ci, ce qu'on savait faire avec un triangle quelconque et qu'on a différé depuis bien longtemps, avec les cas d'isométrie en particulier, si vous connaissez un triangle, si vous connaissez deux côtés, si vous connaissez un angle, il est entièrement déterminé. Ça fait longtemps que les élèves connaissent ça. Est-ce qu'on peut calculer AB ? Connaissant OA, connaissant OB, connaissant l'angle en haut. Peut-on calculer la longueur AB ? Si on pourra calculer la longueur AB si on est capable de calculer son carré, soit si on est capable de calculer le produit scalaire de AB par lui-même. Est-ce qu'on peut calculer le produit de AB par lui-même ? On réussira si on peut décomposer AB vectoriellement avec la formule de Schall en AO plus OB pour récupérer le point O, puisqu'il nous faut bien passer par le point O. Si on peut calculer AB en utilisant cette formule vectorielle. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Alors au passage, une question qu'on ne s'est pas posée, là, c'est, je m'en aperçois en le disant maintenant, on a déjà dit que le produit scalaire était un produit, ce qui en soi véhicule déjà un certain nombre de propriétés. Alors qu'a priori, pourquoi ça serait un produit, hein? C'est une relation entre deux vecteurs. Ceci dit, le fait que ce soit... c'est pas innocent de l'avoir appelé produit, puisque là, on va se poser la question de est-ce que le produit scalaire se distribue par rapport à la somme vectorielle. Alors, s'il pouvait se distribuer par rapport à la somme vectorielle, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait A au carré, qu'on sait calculer, ça va être la longueur de OA au carré. On va avoir OB au carré, et puis on va avoir d'une part OB fois AO, et puis AO fois OB, qu'on sait calculer, puisqu'on connaît le cosinus de l'angle. On connaît l'angle, donc on connaît son cosinus. Donc le produit scalaire tel qu'on a pu le définir jusqu'ici, est-ce qu'il est distributif par rapport à la somme vectorielle ? Si vous reprenez... alors là, j'ai fait une photocopie d'un texte. Si vous reprenez la réponse qu'on a élaborée lors de la première question sous forme analytique, il suffit en quelque sorte d'avoir un jeu de vecteurs et d'avoir les coordonnées analytiques pour vérifier facilement que le produit se distribue, produit scalaire se distribue par rapport à la somme. C'est distributif, c'est aussi commutatif au possible, au passage, ne l'oublions pas. Et par conséquent, ça permet en quelque sorte d'avoir le théorème de Pythagore généralisé ou le théorème d'Al-Kashi, ce qu'il nous fallait pour avoir la totalité d'un cours sur le produit scalaire. Et suit ensuite les exercices classiques et les démonstrations classiques. Alors ce qui nous a un peu étonné, c'est de ne pas avoir trouvé ce genre de choses dans un manuel. Il y a juste le Théraché où il y a une approche qui ressemble un petit peu à ça. Ils essayent d'introduire le produit scalaire un peu comme une généralisation de Pythagore. Mais sous cette forme-là, il ne nous semble pas l'avoir vu. Alors que finalement, c'est un peu curieux qu'on ne l'ait pas trouvé, nous semble-t-il. Voilà sur le produit scalaire.
Hier, Robert vous a montré le travail de Clermont et de Bordeaux sur les triangles et le lien avec les distances inaccessibles. Et donc à Marseille, on a essayé de poursuivre dans cette veine-là avec le théorème de Thalès. Bon, alors, une remarque d'abord. Dans les manuels, comme le suggère un peu le programme, mais c'est en fait la linéarité du programme, bon, il y a une espèce de progression qui est suggérée, qui est d'abord étudier le cas particulier de la parallèle passant par un milieu, puis le théorème de Thalès comme généralisation, et enfin des applications. Tiens, ça ne marche plus, ça. Voilà. Alors, une question qu'on se pose, pourquoi cet ordre et pourquoi pas un autre ? Donc, bon, ben voilà, mais c'est uniquement pour le plaisir de ne pas faire comme tout le monde. Alors, première enquête d'abord, qu'est-ce que c'est que le théorème de Thalès ? Bon, et comment peut-on le transposer, ce théorème de Thalès, dans un parcours d'études et de recherche qui engendre l'étude des triangles, puisqu'on se place dans cette situation-là ? Alors, en tant que tel, je l'ai dit hier, ce théorème de Thalès était considéré par Hilbert comme le théorème fondamental des similitudes. Donc, sans doute, on pourrait peut-être jouer là-dessus, sur les propriétés sur la similitude, même si on sait que c'est pas dans le programme de 4e et du collège, mais enfin, encore que, il y a les agrandissements et les réductions. Ensuite, donc comme je viens de le dire, ça permet de modéliser des problèmes d'agrandissement et réduction, et en même temps, on pourrait peut-être donc insérer cet enseignement dans le cadre d'un PER sur les distances inaccessibles qui commencerait au niveau de la 6e par la rencontre avec les échelles sur les cartes, qui se prolonge, comme l'a montré Robert, en 5e avec les triangles isométriques, le cosinus en 4e, les lignes trigonométriques en 3e, le théorème de Thalès en 4e et en 3e, et qui va jusqu'au théorème d'Al-Kashi et au théorème des sinus dans les triangles quelconques. Je ne comprends pas ce qui se passe, ça ne marche pas très bien. Oui, j'ai sauté une... Ouais, ça, c'est parce que j'ai... Tiens, excusez-moi, bon, je me trompe un peu. Alors, donc, première étape, voilà ce qu'on va faire. Les élèves ont donc déjà vu en 5e, pour parler rapidement, les cas d'égalité des triangles et tout au moins la nécessité de posséder de connaître trois éléments d'un triangle pour en pouvoir en construire un. Comme Robert l'a montré hier avec tout un travail fait là-dessus. Bon, alors on recommence un petit peu et on se dit bon, qu'est-ce qu'on obtient finalement quand on construit des triangles qui vérifient non pas des propriétés sur des longueurs des côtés mais uniquement sur les angles. Bon, alors en avant, on lance les élèves par exemple, si je dessine un triangle qui a un angle qui vaut 43 degrés, bon, les élèves dessinent sur papier calque un triangle et ils comparent avec leurs voisins et bon, ils s'aperçoivent qu'il ne se passe rien de fracassant, ils sont différents. Bon, alors allons-y avec deux angles maintenant, donc un de 43, un de 115, et on demande de comparer le triangle avec celui de son voisin. Et évidemment, ce qui va apparaître dans la comparaison, c'est que, alors, bon, ici, j'ai pas les diapositives, vous voyez, j'ai un petit problème, là, je clique et il se passe rien. Bon, alors, donc, assez rapidement, les élèves voient que si on connaît deux angles, évidemment, on connaît le troisième. Ça permet quand même de vérifier qu'on a bien construit des angles, d'accord, des triangles corrects et des angles corrects, bien sûr, puisque on a le troisième qui est déterminé. Et puis, on va comparer ces triangles avec celui de son voisin. Et on va voir, évidemment, qu'ils ont la même forme. Bon. Alors, on donne un nom, on dit, bah, écoutez, ils s'appellent semblables lorsque les triangles sont construits avec deux angles égaux, les troisièmes étant égaux eux aussi. Alors, ce qui se passe quand les élèves comparent leurs triangles avec papier calque à celui du voisin, il apparaît très souvent cette figure-là. Alors évidemment, on ne se préoccupe pas de savoir si la similitude est directe ou si elle est indirecte. Hein. Bon, les élèves, pour comparer, vont retourner les calques de manière à ce que ça marche. Et ce qu'ils voient, c'est que, ben, apparemment, dans cette configuration, on dirait que les troisième côtés sont parallèles, quoi. Hein. Bon, pour pouvoir les comparer, il faut les superposer d'une certaine manière, les côtés, et voilà ce qui se produit. Ce qui permet de faire une conjecture. Bon, bien sûr, si les angles sont égaux, ben, apparemment, les troisième côtés, quand on les met dans cette position, sont parallèles. Alors, on leur dit, bon, ben, écoutez, c'est très bien, on va essayer de faire ça, et vous allez même le faire en travail à la maison. Donc, voilà l'énoncé du problème que l'on donne, avec ici une petite erreur volontaire que l'on a fait, si vous... dans l'énoncé de ce problème, parce que on vient de constater sur la figure superposée que les droites sont parallèles. Maintenant, on va essayer de construire un problème que vous allez résoudre, dans lequel on va essayer de démontrer que c'est parallèle. Alors, trace un triangle ABC, construit un triangle AEF semblable au triangle ABC, donc on voit bien qu'ils ont un sommet commun A, tel que les côtés AE et AB aient pour support la même demi-droite, etc., et tel que les angles BE d'une part soient égaux et les angles CF d'autre part soient égaux. Les droites BC et EF sont-elles parallèles? Si oui, démontre-le. Bon. Et évidemment, on se retrouve à peu près, hein, on continue de vivre dans la situation que les élèves avaient rencontrée. Bon. Le problème, c'est qu'il manque une condition, parce que la similitude n'est pas forcément directe dans cet énoncé, et donc il va apparaître des figures de ce type-là, ou qui vérifie l'énoncé du problème. Bon, et là, on a un petit problème, bien sûr, puisque les droites CB et EF sont pas parallèles, bien sûr, vu que la similitude n'est pas directe. Bien, alors le professeur peut, à ce moment-là, insister sur le fait qu'il va falloir rajouter une condition à l'énoncé pour avoir une figure de ce type-là, où, pour les élèves de 4e, il est assez facile de démontrer que les droites sont parallèles, puisque les angles correspondants sont égaux. Et on vient de découvrir ce petit théorème-là. Donc, on a un théorème qui correspond à l'énoncé amélioré de ce petit travail à la maison. Troisième étape, on lance un défi aux élèves. Et l'idée est la suivante. On a fait ça dans la classe et avec un rétroprojecteur. Hein. Donc, alors avec un rétroprojecteur, ce dont on s'est aperçu, c'est que le papier calque, parfois, ne passe pas très bien. Donc, il faut donner des feuilles, des transparents aux élèves. On le voit pas, on voit pas très bien au rétroprojecteur. Donc, voilà ce qu'on demande aux élèves, c'est construire. Alors, on donne la même feuille de papier transparent aux élèves, de la même dimension, hein, d'accord ? Et le but, c'est de construire un triangle semblable aux autres, à ceux qui ont été construits avant, là, avec l'angle de 43 degrés, etc., le plus grand possible, sur un calque de la même dimension. Et on va demander à comparer, évidemment, celui qui va gagner et celui qui va construire le triangle le plus grand possible dans les dimensions de la feuille. Bon, évidemment, les élèves sont mis par groupe de 4-5, dans le groupe, il y a une première sélection qui est faite, donc les élèves superposent, etc. Et puis ensuite, on met en commun les choses. Oui.
Comme les triangles sont semblables, par rapport à la question de construire le plus grand, il n'y a pas de problème. Non, on a évoqué ça ce matin.
Ah bon. Alors bon, voilà.
Il n'y a pas de problème pour nous, mais pour eux.
Ah oui, ça, voilà. Donc c'est le triangle qui va couvrir le plus d'espace.
Oui, plus grand, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi, hein, sur la feuille. Ils doivent être semblables à celui qui fait 43 et 115. Hein, donc, évidemment, il y a cette contrainte. Alors, ce qui se passe ensuite, lorsque on fait venir les responsables de chaque groupe, enfin, le gagnant de chaque groupe, donc il y a 4-5 groupes dans la classe ou un petit peu plus, évidemment, on va de nouveau superposer les triangles les uns aux autres. Et là, on a un éventail de 5-6 triangles semblables, que l'on superpose, entre guillemets, par le sommet. Hein. Et ce qui se produit, eh bien, c'est que les élèves voient, parce que, bien entendu, c'est quelque chose qui existe dans leur réalité sociale, que, bien sûr, les trois côtés vont grandir ensemble. Hein, on va dire les choses comme ça, même si on n'a pas le vocabulaire qui est adéquat. Alors donc, les trois côtés grandissent ensemble, voilà une remarque assez intéressante. Et les élèves, assez rapidement, en viennent à dire qu'ils grandissent proportionnellement. C'est-à-dire que les longueurs, eh bien, il y en a un qui est un certain nombre de fois l'autre, une qui est un certain nombre de fois l'autre. Alors, on va se servir de ce modèle qu'on travaille ensuite. Et on va tester la validité de ce modèle. Pour le moment, on en est encore guère qu'à l'étape des conjectures. Mais ce modèle, on va s'en servir pour essayer de prédire ce qui se passe avec des distances inaccessibles. Alors bon, comme on va pas sortir, on a vu hier mesurer la distance au phare de l'île du Frioul ou d'autres choses. Bon, voilà ce qu'on avait trouvé. Le professeur arrive dans la classe en me disant, voilà, moi j'ai aussi construit un grand triangle, avec les mêmes contraintes, donc il est semblable au vôtre, 43 degrés, 115 degrés. Et bon, mais enfin, il est très grand ce triangle, puisqu'il y a un côté, le côté AC, qui mesure 60 cm. Ça, je peux vous le dire. Vous pouvez vérifier avec le rapporteur, on va vérifier au tableau qu'il est bien semblable au vôtre. On a vu que les triangles semblables, c'était les angles égaux, donc on mesure, etc. Les élèves sont convaincus. Bon, et j'ai choisi donc 60 cm pour la longueur du côté AC. Est-ce que vous pouvez déterminer les longueurs des deux autres ? Autrement dit, on va servir de la conjecture que l'on a expérimentalement sur les divers papiers calques pour déterminer qui était le gagnant du défi, du concours. Et évidemment, les élèves avec la conjecture de proportionnalité, eh bien, en viennent à trouver les longueurs des deux autres côtés. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils comparent évidemment les 60 cm hauts. Alors, ils ont tous des triangles semblables différents les uns les autres, au côté AC de leur propre triangle. Ils évaluent le rapport et puis après, ils utilisent. Ce qui fait qu'on a chaque fois des rapports différents et on peut vérifier pour chaque élève va vérifier qu'effectivement, avec son propre triangle et le rapport qui existe, il peut calculer la longueur des côtés, des deux autres côtés du triangle qui est inaccessible, trop grand, etc. Bon, alors évidemment, on en vient, cette conjecture est vérifiée, et même elle est vérifiée d'une manière telle qu'elle peut prédire des calculs de longueur inaccessibles. Bon, donc le modèle nous prédit des choses sur la réalité. Évidemment, on va admettre que si les triangles sont semblables, les longueurs de leur côté sont proportionnelles. En particulier, lorsque on a des triangles dans cette configuration, triangles que l'on a déjà vus. Alors on sait pertinemment que si les droites sont parallèles, alors les triangles sont semblables, puisque les angles sont égaux, c'est des correspondants égaux, ils ont un angle en commun, et donc on conjecture que les longueurs des côtés correspondants sont proportionnelles. Alors, évidemment, c'est une conjecture, on en est un peu convaincu, mais enfin, on peut vérifier en travail à la maison, on donne aux élèves, parmi tous les triangles semblables déjà dessinés, hein, entre eux, vérifie que pris 2 à 2, ils ont leur côté proportionnel, et bon, là, il n'y a pas une grande nouveauté. On vient donc d'établir le théorème de Thalès que l'on énonce sous les diverses formes, en disant que c'est un théorème que l'on admet, bien entendu. Alors bon, je sais bien qu'il y a la démonstration par les airs qui peut vivre au niveau du collège, mais qui me paraît un peu éloignée de cela. Quoi.
Parce que moi, je voudrais bien qu'il l'utilise même.
Bon. Alors donc, parce que si tu me trouves la question qui amène les élèves à la vérification des airs des trapèzes, moi, je suis... content. Alors donc, on dit que c'est un théorème que l'on va admettre. Bon, et que ça, c'est quelque chose qui existe en mathématiques. Il y a des théorèmes, temporairement, on les admet. Et puis, ce qu'on va faire, on va essayer quand même de se simplifier un peu la vie et de voir si par hasard, il n'existerait pas des preuves du théorème de Thalès pour des cas particuliers du rapport. Et que c'est quelque chose qui se fait en mathématiques. Quand on attaque un problème et qu'on ne sait pas le résoudre, on se place très souvent dans des cas particuliers. Et puis à partir de là, ça donne des idées pour le cas général. Là, on verra bien. ou tout au moins on va avancer comme ça. Donc l'idée qui vient assez souvent chez les élèves, c'est effectivement dans le cas où on prend le milieu, hein, le rapport, bon, c'est la moitié, bon, ils disent pas forcément un demi, et on va essayer de voir ce qui se passe dans ce cas-là. Bon, alors en avant, s'il veut bien avancer. Voilà, et donc on se retrouve avec cette figure-là, bien connue, avec la droite EF parallèle à BC passant par le milieu. Alors, ce théorème, il est pénible à démontrer puisqu'il y a une rupture, en quelque sorte, de contrat, du contrat didactique avec les élèves. Alors, quelle est cette rupture? Ben, la rupture, c'est qu'en règle générale, quand on pose un problème aux élèves, toutes les données sont contenues dans l'énoncé. Or là, ben non. Pour démontrer ce théorème, toutes les données ne sont pas contenues dans l'énoncé. Alors, comment faire pour faire vivre cette affaire-là auprès des élèves? Voilà la question qu'on s'est posée. Alors, bon, une idée assez simple, c'est de commencer par recenser tous les théorèmes dont on dispose, et donc là, évidemment, c'est le collectif classe qui travaille, qui permettent de conclure qu'un point est le milieu d'un segment. Bon. Alors, il y a beaucoup de théorèmes, enfin, il y en a quelques-uns, tout au moins, s'il est sur le segment à égale distance des extrémités, s'il est sur la... Il y a des idées qui viennent avec médiatrice, enfin bon, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et la question, donc on voit que les choses vont durer quand même un certain temps. La question qu'on se pose, c'est, alors il y a par exemple le milieu de l'hypoténuse qui est centre du cercle circonscrit, il y a toutes sortes de, il y a les diagonales du parallélogramme, il y a des choses de ce type-là. Et donc on note tout cela au tableau et puis on essaye de passer au crible la possibilité d'utiliser chacun des théorèmes dont on dispose. Et puis, évidemment, ce que l'on voit, c'est qu'il manque. Il manque chaque fois quelque chose à cette figure pour faire fonctionner un des théorèmes dont on dispose. Donc ici, rajouter des objets qui n'étaient pas présents dans l'énoncé du problème tel qu'il est donné apparaît comme une nécessité relativement à nos connaissances. Sinon, on ne s'en sortira pas de cette affaire. Alors, il y a plusieurs choix qui peuvent se produire. Il y a, par exemple, les élèves qui ont l'idée du milieu de l'hypoténuse, centre du cercle circonscrit, mais évidemment, au triangle rectangle. Mais évidemment, il n'y a pas de triangle rectangle dans cette affaire. Donc, il faudrait créer un triangle rectangle. Alors, comment créer des triangles rectangles dans des triangles quelconques? Bon, assez naturellement, il y a l'idée de la hauteur qui apparaît. Hein, ça, c'est ou la médiatrice d'un côté, mais la médiatrice d'un côté, elle nous gêne un petit peu. Et donc, il y a l'idée de hauteur qui apparaît. Donc, on trace la hauteur, une hauteur, celle issue de A, et voilà ce qu'on obtient. Bon, alors évidemment, à partir de là, la question c'est, comment on fait pour s'en sortir de cette affaire-là? Bon, alors là, on connaît la démonstration, elle est assez simple, hein, on sait que le triangle est rectangle, d'accord, donc que le milieu de AB, c'est le centre du cercle circonscrit, on y revient. Que la droite EF, elle est donc la médiatrice du segment AH, puisque, bien sûr, on est dans un triangle rectangle, elle est perpendiculaire à un côté, elle passe par le milieu de l'hypoténuse. Et donc, que si elle est la médiatrice de AH, le point F, il est sur la médiatrice de AH. Et donc, GAF égale FH égale FG égale FH. Et attendez que je retrouve ma démonstration.
F est le centre du cercle.
F est le centre du cercle passant par... oui, c'est ça, il est sur la médiatrice, il est sur le côté, donc c'est le milieu de l'hypoténuse, et le problème est réglé. Voilà, merci, Robert. Oui, bon, alors donc, voilà comment les choses se guident. Alors évidemment, je vais relativement vite. Deuxième idée, c'est le point d'intersection des diagonales qui est le milieu. Donc, il manque un point pour créer, évidemment, la chose. Donc, il va falloir en rajouter un. La démonstration est assez classique. C'est donc le symétrique de F par rapport à E, point G. et donc la démonstration apparaît. Troisième idée, c'est créer un triangle FGC isométrique au triangle AEF. Donc là, on raisonne de manière à ce que on arrive à démontrer que FA égale FC. Bon. Et reste dans cette affaire à démontrer que EF vaut un demi de BC pour avoir le troisième rapport dans le cas du théorème de Thalès. Bon, alors, plusieurs cas peuvent se présenter selon la manière dont on a complété les figures. Alors, bon, les figures complétées avec le point G symétrique ou bien le triangle FGC isométrique. Bon, alors, évidemment, on peut demander cette démonstration, par exemple, en travail à la maison, en utilisant cette figure que les élèves ont déjà travaillée. Donc, ils ont vu qu'il y avait un parallélogramme AG, B, F, et donc que, évidemment, GB égale à F, qu'on a un parallélogramme GF, CB, donc que GB égale FC, et donc que FA égale FC. Cas où on est parti sur la hauteur. Alors, de nouveau, ici, on peut recenser les propriétés du triangle rectangle et essayer d'élaborer un énoncé pour un travail à la maison. Bref, on arrive ainsi à la démonstration du résultat qui porte sur la droite des milieux. Bon. Alors, évidemment, oh là, la question va se poser maintenant. Bon, on a réussi à démontrer le théorème de Thalès dans un cas particulier, le milieu. Il faudrait voir si on ne peut pas trouver pour d'autres rapports que 1/2. Bon, alors il y a un rapport qui vient assez naturellement, c'est de prendre la moitié de la moitié, donc le rapport 1/4, qu'on peut traiter à titre d'exercice, c'est ce que l'on a fait. Et puis, évidemment, là où le problème va se poser, c'est le cas 1/3, 3/4, 2/3, etc. Bon, alors ici, ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on a fait faire l'an dernier en quatrième, c'est de commencer par élaborer l'énoncé d'un travail que l'on va poursuivre à la maison. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on arrive à démontrer pour s'en sortir? Alors, on va partir, par exemple, avec 1/3 pour arriver à démontrer le cas 1/3. Bon. Bon, alors, évidemment, la figure apparaît et évidemment, la question... Oh là là, ça marche pas. La question, c'est de faire en sorte que apparaissent des milieux de revenir au cas du milieu. La démonstration est assez connue et le professeur essaye de diriger l'étape. Est-ce qu'on ne pourrait pas, avec le tiers, se ramener au cas que l'on connaissait avec le demi? Bon. Et évidemment, là, il y a un petit problème. Est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, démontrer que la première longueur, enfin, le premier tiers est égal au deuxième tiers. Bon. Est-ce que je pourrais pas... Bon, alors les élèves sont pas stupides, ils voient bien qu'on part d'une sous-figure dans la grande figure, de laquelle on peut appliquer le théorème de la moitié, bon, du cas du rapport 1/2. Donc j'ai démontré que la première longueur et la deuxième sont dans les mêmes rapports. Mais comment démontrer ensuite le troisième cas? Bon, alors là, bien sûr... Deux possibilités se produisent, ça va dépendre de la culture mathématique de la classe. Le professeur souffle qu'on pourrait peut-être essayer pour le deuxième tiers et le troisième tiers de se ramener au cas de la moitié. Et évidemment, il n'y a pas de triangle, donc de nouveau, il va falloir construire un objet supplémentaire dans la figure. Ce à quoi les élèves... on espère, ont été habitués avec la construction précédente où il manquait des choses à la figure. Donc, bien sûr, on connaît la démonstration et soit les élèves ont l'idée, soit c'est le professeur qui dit, écoutez, on va construire un deuxième triangle dans lequel on va pouvoir utiliser le milieu, allons-y. Et l'idée, c'est de faire construire par les élèves les différentes étapes du problème par lequel on va passer et que l'on va résoudre à la maison, en ayant commencé d'ores et déjà à explorer les démonstrations et les, que l'on va mettre en œuvre pour cela. Bon, alors donc, on a fait vivre quoi ? Ben, le théorème de Thalès, dans le cas où le rapport avait quelques valeurs particulières. Évidemment, on en arrive là et on dit qu'on a démontré partiellement le théorème de Thalès et qu'on admettra qu'il est vrai dans le cas général parce qu'on ne va pas passer par les airs. Sixième étape. Évidemment, il y a un petit problème dans ce que les élèves voient assez rapidement, c'est que si on prenait la chose à l'envers, avec les milieux, il y a des chances que la droite qui passe par les milieux a tout lieu de penser qu'elle est parallèle au troisième côté. Bon. Alors, évidemment, on va dire, bah, ça, bien sûr, il y a des chances que ça soit vrai. Alors, peut-être qu'on pourrait essayer de le formuler, ça. Bon. Est-ce qu'on pourrait essayer de formuler la réciproque de cette propriété qui est un peu boiteuse comme réciproque, parce que c'est pas je prends la conclusion et je la mets à la place de l'hypothèse. Donc, on fait rechercher une formulation de la réciproque par les élèves dans la classe. Puis, évidemment, une fois qu'on est arrivé à cette formulation, on va essayer, toujours pareil, de recenser les théorèmes dont on dispose qui permettent de conclure que deux droites sont parallèles. Et là, ben, il y a une batterie de théorèmes. Bon, il y a les théorèmes sur le parallélogramme, sur les angles alternes internes, sur les perpendiculaires communes à la même droite, etc. Bon, toujours pareil, on teste en classe la pertinence de chacune des voies dans lesquelles on risque de s'engager. On arrive assez rapidement à l'idée que la démonstration qui assez commode sera celle qui utilise la hauteur, parce que si on arrive à démontrer que la droite EF est perpendiculaire à H, alors on a gagné. Bon, alors là encore, les choses vont assez vite, puisque F étant le milieu et E étant les milieux de l'hypoténuse se trouvent sur la médiatrice du côté AH en commun, et donc la droite EF est la médiatrice du segment AH, et donc elle est perpendiculaire à AH, donc elle est parallèle à FG. Alors ici, ça c'est un PowerPoint que j'ai piqué à une de mes collègues, hein, c'est pour ça que je ne suis pas très habile. Donc, quel bénéfice observer du point de vue de la culture des élèves? Bon, et voilà, donc c'est ce qui m'y fait repenser, c'est elle qui avait noté cela. Alors, quel bénéfice observer du point de vue de la culture mathématique des élèves? Bon, alors déjà, une chose, c'est que le rapport à l'autorité vient du savoir et non pas du professeur, c'est-à-dire qu'on se pose des problèmes... Et c'est pas le professeur, enfin, on essaye de mettre en retrait l'autorité du professeur en ce qui concerne le guidage de la démonstration. C'est-à-dire, c'est des démonstrations qui sont pas simples, dans la mesure où, comme je l'indiquais, il va falloir construire des éléments, rajouter des éléments supplémentaires aux figures. Donc, évidemment, on se pose des questions et ça va créer de l'autonomie des élèves relativement à l'étude. Ensuite, ben, comme on tâtonne, on se trompe, on explore des voies, etc., bon, ben, l'erreur apparaît normale, quoi. Ça fait partie de la recherche. Quand je cherche, je me trompe, j'explore, je fais des marches arrière, je retourne, etc., je bifurque. Et donc, ben, faire des mathématiques, c'est se tromper souvent, et explorer des voies, et puis s'engager, à essayer de s'engager vers un dépassement de ces voies. Évidemment... Il y a des problèmes qui durent assez longtemps, quoi, dans cette affaire, un petit peu comme on les a vus ce matin en TD. Bon, on fait travailler les élèves un quart d'heure sur quelque chose, et puis on va reprendre, etc. Bon, donc les élèves, en règle générale, vont accepter le temps long de la recherche. Bon, les mathématiques prennent du sens, bien sûr. Bon, en même temps, on s'aperçoit que ben on peut sécher. Mais on peut aussi compter sur la force du collectif à un moment donné, parce que là, les élèves sont engagés dans vraiment des activités de recherche et il y a des conjectures qui apparaissent, des idées qui apparaissent, etc. Et on s'en saisit, c'est mis en commun et les choses avancent à partir des connaissances que l'on met en commun et des idées qui sont mises en commun elles aussi. bon, ça ne veut plus avancer, voilà. Alors, du point de vue des organisations mathématiques et, écrit-elle, métamathématiques. Alors, ici, bien sûr, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, c'est l'occasion d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, avec des notions qui ont déjà été travaillées dans les classes antérieures. Par exemple, la proportionnalité, la mesure des angles, la somme des angles du triangle, etc. Et puis, avec quelque chose de nouveau, c'est ce que j'ai indiqué, à savoir que des démonstrations, parfois, nécessitent l'ajout d'objets complémentaires, sans que ce soit indiqué sur la figure. Et donc, évidemment, ça, c'est, me semble-t-il, un pas assez important que l'on fait franchir aux élèves. J'ai le droit de rajouter des objets à ma figure, qui vont m'aider. Alors, du point de vue des connaissances acquises par les élèves, alors bon, ça c'est ma collègue qui parle, donc la notion de triangle semblable devient assez forte et les élèves la font émerger de manière judicieuse, même hors contexte. Alors là, elle avait donné un travail sur le cosinus par exemple, et les élèves avaient vu, bien sûr, que les triangles étaient semblables, bon, les triangles rectangles étaient semblables, etc., il y a une série de triangles rectangles. Dans la pratique du théorème de Thalès, dit-elle, les élèves se trompent beaucoup moins sur l'écriture des rapports parce que, évidemment, bon, on sait bien que les côtés homologues, très souvent, les élèves les voient pas très bien. Bon, voilà un effet produit. Ils font, bien sûr, ensuite aisément le lien avec les agrandissements-réductions puisqu'on a commencé à les travailler en comparant ces triangles semblables les uns aux autres. Et puis, le théorème parallèle et milieu dans un triangle est vraiment perçu comme un cas particulier, facile, du théorème de Thalès. Bon, alors que, évidemment, très souvent, on part à l'inverse, c'est-à-dire du théorème des milieux, et on arrive au théorème de Thalès. Bon, voilà à peu près ce que... Alors ça, ça a été expérimenté l'an dernier, en quatrième, au Collège Marseille-Vert, à Marseille. Et voilà donc ce PowerPoint qui était finalement, je m'en souviens, c'était celui qui avait été fait pour les journées des 13 et 14 juin dans le groupe de TD dans lequel elle se trouvait. Voilà.